Acte 1, la foule. Vienne, 1914. Sur le ring, devant chez Cirque, des drapeaux aux fenêtres. On acclame des soldats qui défilent, agitation générale. Des groupes se forment. Un crieur de journaux. Édition spéciale. Deuxième crieur de journaux. Édition spéciale, les deux communiqués. Un manifestant se détache d'un groupe qui chante la marche du prince Eugène, criant sans cesse, le visage écarlate et déjà tout enroué. « À mort, la Serbie! À mort! Vive les Habsbourg! Hurrah! Vive la Serbie !» Un intellectuel s'aperçoit de l'erreur, lui flanquant un coup dans l'écoute. « Mais qu'est-ce qui vous prend ?» Le manifestant, d'abord surpris, se ravise. « À mort, la Serbie! À mort! Hurrah! » À mort les Habsbourg, la Serbie. Dans un deuxième groupe, une prostituée a été entraînée dans la bousculade. Un voyou marche très près derrière elle et tente de lui arracher son sac. Le voyou hurlant sans cesse. Hurrah, hurrah. La prostituée. Lâchez ça, quel goujat. Mais lâchez ou je... Le voyou renonçant à son entreprise. Mais pourquoi vous criez pas hurrah? Et ça se dit patriote. Une putain, voilà ce que vous êtes. Dites-vous bien ça. La prostituée. Vous êtes un pickpocket. Le voyou, regardez-moi cette traînée, c'est la guerre, dites-vous bien ça. Une putain, voilà ce que vous êtes. Un passant bas, faites la paix, je vous en prie, faites la paix. La foule prétend attention. Une putain, qu'est-ce qu'elle a dit? Un deuxième passant, si je ne me trompe, elle a dit un truc contre la maison impériale. La foule, à mort, cognez-la! La fille a réussi à disparaître dans un passage. Laissez-la filer, on n'est pas comme ça, nous, vive les Habsbourg! Un reporter à celui qui l'accompagne. On dirait qu'il y a de l'ambiance ici. Que se passe-t-il? Le second reporter. On verra bien. Un fournisseur de l'armée est monté avec un autre sur un banc du ring. D'ici, on les voit mieux. Est-ce qu'ils défilent bien, nos braves soldats? Le second. Comme a dit Bismarck, c'est dans les journaux. Aujourd'hui, nos hommes, on les embrasserait. Le premier. Savez-vous qu'ils ont même pris l'aîné des Heisler? Le second. Vous m'en direz tant? On n'a jamais vu ça. Même des gens aussi riches, il n'y a rien eu à faire. Le premier, c'est-à-dire, ils essayent maintenant. Probablement, il va monter les voir et se débrouiller. Alors, monter les voir et se débrouiller, ça veut dire se faire réformer. Je continue. Le second, et au pire, vous verrez, il va finir par lui acheter l'automobile de ses rêves. Le premier, ça aussi, ça peut être dangereux. Un passant, mes respects, monsieur le directeur général. Un autre passant à celui qui l'accompagne. T'as entendu? Tu sais qui c'est? Le directeur général en civil. Faut faire gaffe à ce qu'on dit parce que c'est le supérieur des généraux. Un officier à trois autres. Salut, Novotny. Salut, Pokorny. Salut, Povolny. Dis donc, toi qui t'y connais en politique, qu'est-ce que t'en dis? Deuxième officier avec une canne. Tu sais, moi, je dis tout ça, c'est à cause de l'encerclement. Le troisième. Ah, tu sais, c'est évident. Le quatrième. Tout à fait mon avis. Hier, j'ai bamboché. Vous avez vu le dessin de Schönpflug? Du grand art, hein? Le troisième, tu sais, dans le journal, on a dit que c'était inapplicable. Le deuxième, inéluctable, il est dit. Le troisième, ah, évidemment, inéluctable, j'ai mal lu, c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu vas devenir? Le quatrième, tu vois, avec un peu de chance, j'atterris au ministère de la guerre. Le premier, ah, bien sûr, toi, le guéluron, tu viens chez nous. Écoute, hier, j'étais à l'Apollon voir Mélamars. Novak du 59 m'a raconté qu'il avait entendu dire qu'on me proposait pour le mérite. Un crieur de journaux. Tag Blatt, grande victoire à Shabbat. Le quatrième, je te félicite. T'as vu celle-là? Une souris de choix, hein, c'est moi qui vous le dis. Attendez, je vais. Hop, il sort. Les autres lançant dans sa direction. « Bon, alors tu viens chez Hopfner après ?» Un Viennois tenant un discours debout sur un banc.
« Wenn wir mussten im Ahnen des ermordeten Thronfolgers befolgen, hat es keine Spombanaden geben. Darum, Mitbürger, sage ich auch, wie ein Mann wollen wir uns mit fliehenden Fahnen an das Vaterland anschließen in der großen Zeit? Sind wir doch umgerungen von lauter Feinden?» Wir führen einen heiligen Verteidigungskrieg für mir. Also bitte, schauen Sie auf unsere Braven, die was dem Feind jetzt in ihre Stirne bieten, ungeachtet. Schauen Sie, wie da draußen stehen vor dem Feind, was Vaterland rufen tut. Und dementsprechend trotzen Sie der Unbildung jeglicher Witterung. Draußen stehen Sie, da schauen Sie uns an. Und darum sage ich auch, es ist die Pflicht eines jedermann, der ein Mitbürger sein will, Stand dabei, Schulter an Schulter, sein Schärflein beizutragen, dementsprechend. Da heißt es, sich ein Beispiel nehmen, jawohl. Und darum sage ich auch, ein jeder von euch soll zusammenstehen wie ein Mann. Das ist nur Hirnsohn, die Feind, das ist ein heiliger Verheilungskrieg, was wir führen. Wir ein Phönix stehen wir da, den es nicht durchbrechen werden, dementsprechend. Wir sind wir und Österreich will auch verstehen, wie ein Phalanx aus dem Weltbrand, sage ich. Die Sache, für die wir ausgezogen wurden, ist eine gerechte, da gibt's keine Würsteln. Und darum sage ich auch, Serbien muss sterben.
Traduction. Car il nous fallait obéir aux mânes du prince héritier assassiné. Il n'y avait pas à tortiller. C'est pourquoi, concitoyens, moi aussi, je vous le dis, comme un seul homme, drapeau au vent, joignons-nous à la patrie en cette époque grandiose. Car nous sommes encirculés par rien que des ennemis. C'est une sainte guerre de défense que nous menons. Tenez, contemplez nos braves, eux qui offrent leur front à l'ennemi au péril de leurs risques. Regardez comme ils font face à l'ennemi parce que la patrie fait appel et conséquemment résiste aux ravages des intempéries. Ils sont là, regardez-les, et c'est pourquoi, moi aussi, je vous le dis, il est du devoir d'un chacun qui se veut citoyen d'apporter sur le champ son obol, épaule contre épaule. Conséquemment, il s'agit de prendre exemple, parfaitement, et c'est pourquoi, moi aussi, je vous le dis, chacun d'entre vous doit se serrer les coudes comme un seul homme. Qu'ils le sachent, les ennemis, c'est une sainte guerre de défense que nous menons. Nous nous dressons là, tel un phénix, qu'ils n'enfonceront jamais. Conséquemment, nous, c'est nous. Et l'Autriche, telle une phalanx, ressuscitera de l'embrasement du monde. C'est moi qui vous le dis. La cause pour laquelle nous sommes destinés est juste. Il n'y a pas de chichi. Et c'est pourquoi, moi aussi, je vous le dis, la Serbie à la mort, à la vie. Des voix dans la foule. Bravo, c'est vrai ça, la Serbie à la mort, à la vie. Qu'elle le veuille ou non, hurrah, pour tous, à la mort, à la vie. Quelqu'un dans la foule. Et pour la Russie, un autre. Pas de souci. Un troisième. Quelle ineptie, rire. Un quatrième, un coup de fusil, tous. C'est ça, un coup de fusil, bravo. Le deuxième, et pour la France. Le troisième, en récompense, rire. Le quatrième, un coup de lance, tous. Bravo, un coup de lance, c'est ça. Le troisième, et pour chaque coup de pied, pour chaque Anglais. Le quatrième, un coup de pied, tous. Très bon, pour chaque Anglais, un coup de pied, bravo. Un jeune mendiant. Que Dieu punisse l'Angleterre. Des voix. Qu'il la punisse. À mort l'Angleterre. Les débrouillards. Deux débrouillards se rencontrent. Le premier. Bonjour, toi. Encore à Vienne? Ils t'avaient pris pourtant.
Le second. Je suis monté les voir et je me suis débrouillé. Mais toi, qu'est-ce que tu fais encore à Vienne? Ils t'avaient pris pourtant.
Je suis monté les voir et je me suis débrouillé.
Évidemment.
Tu sais pas ce qu'il est devenu, Eddie Wagner? Peut-être qu'il s'est débrouillé lui aussi. En octobre, il est passé devant le conseil de révision, puis j'ai entendu dire que son père devait lui acheter une Daimler, parce que son commandant, tu sais, avait promis qu'il entrerait dans le régiment du train. Puis j'ai entendu dire qu'il entrait soit à l'école des cadres, soit dans une usine de munitions, évidemment dans les bureaux. Puis on a dit qu'il devait être déclaré indispensable pour l'affaire familiale. Et son oncle, tu sais, celui qui file des ronds pour l'hôpital de réserve, je l'ai rencontré à ce moment-là. Il a dit, si tout devait foirer, il le caserait à la Croix-Rouge. Plus personne ne s'y retrouvait. Bref, ça m'intéressait vraiment de savoir où ils l'ont fourré, ce pauvre diable.
Je peux te le dire, son père, saligaud comme il est revenu sur son idée de Daimler et il l'a casé dans les couvertures en papier danoise. Mais ça l'a enquiquiné. Il a dit qu'il préfère encore être sous les drapeaux. Et quand toutes ses relations n'ont servi à rien, il est monté les voir et il s'est débrouillé. Il se pourrait aussi qu'il soit réellement exempté ou en fin de compte déclaré inapte au front. Bon, adieu, j'ai rendez-vous avec une personnalité, je vais peut-être avoir de la marchandise. Je te dis que ça de première.
T'as toujours un bol, toi. T'es au courant, Pepi Seifert? Il a été tué, tu sais, à Rabarouska. Adieu, j'ai une réunion au bureau d'assistance aux victimes de guerre. Demain, ils font leur thé dansant et j'ai promis d'y amener la petite Fritzi Spritzi. Allez, sois chic, viens toi aussi et amène ta sauterelle. Adieu.
L'aumônier et la chalec sur le front à côté de la batterie. Un officier d'artillerie. Regardez, notre bon aumônier quitte l'infanterie et vient se joindre à nous. C'est beau le sapin.
L'aumônier militaire Anton Almer. Dieu soit avec vous, mes braves. Dieu bénisse vos armes. Alors cet ennemi, vous lui chauffez les fesses ?
Du tonnerre, mon père.
Par Dieu, j'aimerais bien essayer une fois un canon.
Volontiers, mon père, espérons que vous toucherez quelques Russes.
L'aumônier tire un coup de canon. Badaboum ! Clameur, bravo !
Maintenant que vous avez tiré, mon père, nos armes sont bénites.
La journaliste Chalec, Alice Chalec, approche. Mais qu'est-ce que c'est que cette position ? Ça, une position ? J'ai déjà vu des positions mieux que ça. Hein.
Je vous demande de l'indulgence en si peu de temps.
Dites, mon lieutenant, vous savez quoi ? J'aimerais bien tirer un coup ou deux.
De tout cœur, mademoiselle. Hélas, pour l'instant, c'est impossible. Ça pourrait exciter l'ennemi. Pour l'heure, nous observons une pause de tir et sommes bien contents.
Oh, écoutez, ne faites pas tant d'histoires. L'aumônier aurait le droit et pas moi, alors que je suis venu tout exprès. Vous n'êtes pas sans savoir que je ne décris que du vécu. Hein. Dites-vous bien qu'il me faut absolument compléter ce récit. Ça paraît dimanche. Allez, donnez-moi ça. Alors, comment on tire ?
Comme ça.
Alice Chalec tire. L'ennemi réplique.
Et voilà, on l'aura cherché.
Chercher quoi ? C'est très intéressant, après tout.
L'abonné et le patriote. L'abonné. Et la récolte. Qu'en dites-vous ?
Le patriote. Je dis simplement, mauvaise récolte en Italie, récolte compromise en Angleterre, sombre pronostic de récolte en Russie, préoccupation quant à la récolte en France. Et que dites-vous des cours, hein ?
Que voulez-vous que j'en dise ? La chute du rouble est assez parlante.
Mon Dieu, si on le compare par exemple à notre couronne...
La lire aussi est lamentable, en baisse de 30%.
Notre couronne, par bonheur, seulement du double. Chez les autres aussi. Chez les autres, partout règne le découragement. Ils seraient contents que ce soit fini. Hein. Et chez nous ?
Ça m'a frappé, moi aussi. Par exemple, en France, le découragement.
Lassitude en Angleterre.
Désespoir en Russie.
Accablement en Italie.
L'ambiance au sein de l'entente, de façon générale.
La muraille s'effrite.
Point carré rongé d'inquiétude.
Grès morose.
Le tsar se morfond dans son lit.
Londres, Paris et Rome dans le doute. Il suffit de regarder les titres, pas besoin d'en lire davantage, puisqu'on sait déjà à quoi s'en tenir. On voit combien ça va mal pour eux et bien pour nous. Chez nous aussi, il y a de l'ambiance, merci, mais d'un autre genre.
Chez nous règne joie, optimisme, enthousiasme, espoir, satisfaction. Nous sommes toujours de bonne humeur. Pourquoi pas, on a bien raison.
Tenir bon, par exemple, voilà ce qui nous passionne.
Personne, nulle part, ne s'y prend aussi bien que nous.
Le Viennois, en particulier, est ultra doué pour tenir bon. Chez nous, les gens supportent toutes les privations comme si c'était un vrai plaisir.
Les privations ? Quelles privations ?
Je veux dire, si tant est qu'il y ait des privations.
Par bonheur, il n'y en a pas.
Ah, très juste, il n'y en a pas. Mais dites, si on est privé de rien... Pourquoi faut-il tenir bon ?
Ah, je peux vous expliquer. Il n'y a effectivement pas de privation, mais on les supporte aisément. C'est tout l'art. Depuis toujours, on sait s'y prendre.
Ah, précisément. Faire la queue, c'est une partie de plaisir. Les gens font même la queue rien que pour ça.
La seule différence par rapport à avant, c'est que maintenant, c'est la guerre. Et si ce n'était pas la guerre, on pourrait franchement croire que c'est la paix. Mais la guerre, c'est la guerre.
Kramosta. Kramosta a une femme. Le fromage, s'il est frais, 4 couronnes la demi-livre. Quoi ? Trop cher ? À la fin de la semaine, il en coûtera 6. Et si ça vous plaît pas, tournez le coin de la rue et allez vous acheter de la saloperie ailleurs, ça sera moins cher. Serviteur. Hein, monsieur ? Vous voulez quoi ? Vous voulez goûter ? Qu'est-ce que vous croyez, monsieur ? C'est la guerre. Si vous préférez de la saloperie, là, vous pouvez goûter. À une femme. Mais qu'est-ce que vous avez à bousculer ? Chacun son tour. Vous voulez quoi ? Un cornichon ? Au poids. Mais je vous avertis, le plus petit, 2 couronnes. Hein. À une femme. Vous regardez quoi ? C'est le bon poids. Le papier, ça pèse aussi. C'est la guerre. Si ça ne vous plaît pas, laissez-le là. Mais que je ne vous revoie plus, hein, poufias. Je ne vous dis que ça. Hein, monsieur ? Et vous, là ? C'est pas bientôt fini, vos remarques ? Vous croyez que j'entends pas ? Vous n'aurez rien du tout aujourd'hui. Des clients comme vous, j'en ai soupé. Hein. Fichez-moi le camp. À une femme. La laitue fait 12 couronnes. Quoi ? Ce qui est marqué ? Oui, c'est marqué 8. Ça se peut bien, mais elle en vaut quand même 12. C'est mon dernier prix. Je ne marchanderai pas le moindre sou. Et si vous ne la voulez pas aujourd'hui, revenez demain. Elle sera 14. J'ai bien l'honneur. Vieille toupie. Bon. Alors, protestation parmi la clientèle. Qu'est-ce que j'entends ? Une rébellion ? Si j'entends encore une fois murmurer, je vous fais coffrer, hein, tous autant que vous êtes. En voilà une autre. Pour aujourd'hui, vous débarrassez le plancher, j'en ai ma claque. À des miséreux pareils, je ne vends rien du tout. Un inspecteur de contrôle des prix qui vient d'entrer. Ah, un contrôle des prix. La facture de la laitue. Il cherche longtemps, puis l'attend en hésitant à l'inspecteur. Oui, mais ça, c'est pas ça qui compte. J'ai été obligé de payer plus, rien que pour en avoir. Hein. Alors, le prix d'achat, bah, 4 couronnes 50. Le prix de vente, bah, 8. Vous savez pas lire ? Croyez peut-être qu'on nous en fait cadeau à nous autres, des victuailles ? De toute façon, les prix, c'est nous qui les fixons, hein, dites-vous bien ça. C'est nous, la compétence. Et si ça convient à ma clientèle, l'administration, moi, je l'emmerde. C'est la guerre. Comment ça, sur ce ton ? Sur ce ton quoi ? Il y a une hausse illicite des prix et je serai inculpé ? Espèce d'ordure ! Vous voulez ma mort, hein ? Je vous ferai la peau, moi. Il lance un plat de porcelaine contenant 12 kilos de fromage mou à la tête du fonctionnaire sans le toucher. Comment ça, je porte l'entière responsabilité des conséquences de cet acte ? Moi ? Je vous ai offensé, peut-être ? Eh ben quoi ? Cher monsieur, il va falloir vous lever plus tôt, hein ? Vous prenez pour qui ? Non, mais je vais vous montrer, moi, qui je suis et puis qui vous êtes, hein ? Vous ne me foutrez pas l'amende, hein ? Pas moi. Moi, j'ai souscrit un emprunt de guerre, moi. Vous savez ce que ça veut dire ? De toute façon, qu'est-ce que vous venez faire ici chez moi ? Je paye mes impôts, dites-vous bien ça. Je vous emmerde. J'en ai soupé, moi, des types qui se ramènent et qui farfouillent dans les prés. Non, mais qu'elle s'en gêne. Vous devriez avoir honte. Si vous ne quittez pas ma boutique sur le champ, je suis capable de violence, moi. Hein. Il saisit 2 couteaux. Quoi ? Vous m'avertissez, en plus ? Espèce de fonctionnaire ! Crève la faim. Je vais vous faire la peau, moi. Il lui lance un panier rempli de noisettes. Quel enfoiré !
Acte 2. La foule. 1915. Vienne sur le ring, devant chez Cirque. Le public se compose en majorité de réfugiés de Galicie, de trafiquants, d'officiers de carrière en permission, d'autres affectés aux hôpitaux ou effectuant un service allégé à l'arrière et de civils aptes qui ont su se débrouiller, c'est-à-dire se faire réformer. Un juif polonais. Édition spéciale achetée, messieurs, dames, un usurier établi à Vienne. Il ne manquait plus qu'on soit envahi par ces camelots ou qu'on regarde rien que des juifs. Et que vont-ils faire ? S'installer et rafler nos affaires, un agent d'affaires. Pour l'instant, je n'ai pas à me plaindre, mais je ne pourrais pas dire, loin de là, que je me porte aussi bien que Ornstein, l'usurier. Quel Ornstein ? Ornstein le réformé ? L'agent, bien évidemment. Samedi dernier, il s'est fui 8005 avec des havresacs en un seul coup de fil. Audacieux, un blessé grave sur des béquilles, avec des tressaillements dans les membres, passe en se traînant, l'usurier. Eh oui. À présent, il faut unir, bon, un crieur de journaux. Édition spéciale, Neue Freie Presse, grande victoire des Allemands en Galicie, recul de l'ennemi, sanglant corps à corps, un officier à 3 autres. Salut Novotny, salut Pokorny, salut Povolny, dis donc, toi qui t'y connais en politique, que dis-tu de l'Italie ? Deuxième officier avec une canne. Oh, tu sais, moi je dis un acte de félonie, c'est simple. Le troisième. Mais qu'est-ce que tu attendais d'autre des Ritals ? C'est évident. Le quatrième, tout à fait mon avis. Hier, j'ai embauché. Vous avez vu le dessin de Schoenflug, du grand art, le premier. Tu sais que j'aimerais, après si longtemps, j'aimerais retourner au Gartenbau, le deuxième. Allons bon, t'es blessé, le troisième. Comment ça, blessé, le quatrième. Mais pas blessé du tout, le premier. Je ne suis pas blessé du tout, le deuxième. Alors, t'es pas au courant, aujourd'hui, le Gartenbau est un hôpital. Tous rient, le premier. Ah oui, un hôpital. Après un temps de réflexion. Ah, ça m'était complètement sorti de la tête. Avec cette guerre qui dure depuis si longtemps, passe un soldat avec des béquilles. Dites-moi, je lui passe un savon ? Cette façon de saluer ? Le quatrième. Oh, ne fais pas de grabuge. À propos, et cette croix du mérite ? Un crieur de journaux. Recul de l'ennemi ! Sanglant corps à corps, s'il vous plaît. Le premier. Oui, la croix du mérite, je me suis proposé. C'est fou le temps que ça prend, le troisième. Quel foutoir, le quatrième. Que voulez-vous ? La guerre, c'est la guerre. Pas la moindre souris aujourd'hui, le premier. Vous savez quoi ? Allons chez Hopfner. Ils sortent. La danseuse qui pue. Soirée dansante à Hasenpott. Un monsieur Balt et une dame Balt en conversation. Le monsieur. Mademoiselle.
Madame, veuve.
Vous ne dansez pas?
Non.
Pourquoi?
Si je danse, je sue. Si je sue, je pue. Si je ne danse pas, je ne sue ni ne pue.
Taratata.
La journaliste Chalec. Votre Excellence est-elle disposée à me confier pour mon journal quelques indications authentiques sur le cours des événements actuels, enfin pour autant que cela soit possible, dans le cadre des réserves qui s'imposent?
Le général. Ouais, c'est rien. Seulement, j'ai entendu dire que maintenant, c'est les Prussiens qui débarquent. Les Prussiens. Et après, nous autres, on sera de nouveau mal, ces foutus Prussiens.
Ah, très intéressant. Votre Excellence saurait-elle quelque chose du sort de la 3e brigade d'artillerie à cheval qui nous tient particulièrement à cœur? Grand remerciement, Excellence. Je ne manquerai pas de communiquer cette importante déclaration d'un de nos plus glorieux chefs d'armée. De tous les problèmes de cette guerre, celui de la bravoure individuelle m'intéresse le plus. Bon, je suis curieuse de voir comment cette enseigne de frégate... Ah, le voilà, l'enseigne de frégate est entrée. Je n'ai pas beaucoup de temps, soyez bref. Bon, vous êtes bombardier. Que ressentez-vous en pleine action?
Un enseigne de frégate. En général, on tourne une petite demi-heure au-dessus des côtes ennemies, on laisse tomber quelques bombes sur les objectifs militaires, on les regarde exploser, on photographie le feu d'artifice et on rentre chez soi.
Vous êtes-vous déjà trouvé en danger de mort?
Oui.
Qu'avez-vous ressenti alors?
Ce que j'ai ressenti alors?
Il me dévisage un peu méfiant, évaluant presque inconsciemment le degré de compréhension qu'il peut attendre de moi pour des sentiments encore obscurs.
Eh bien, c'est étrange, comme si un roi tout d'un coup se retrouvait mendiant. On se croit presque un roi, vous savez, quand là-haut, hors d'atteinte, on plane au-dessus d'une ville ennemie. Eux en bas sont sans défense, offert.
Je vous suis très bien. Avez-vous déjà bombardé Venise? Comment? Vous auriez des scrupules? Moi, je vais vous dire, nous sommes partis dans cette guerre en sentimentaux.
Qui?
Ben, nous. Nous avions l'intention de la mener dans un esprit chevaleresque. Qui d'entre nous n'aurait blêmi il n'y a pas un an à l'idée qu'on pourrait lâcher des bombes sur Venise, hein? Et à présent, ben, c'est le contraire. Quand de Venise on tire sur nos soldats, les nôtres aussi doivent tirer sur Venise, calmement, franchement, sans sensiblerie.
Qui le dites-vous? Rassurez-vous, j'ai bombardé Venise.
Ça me suffit. À présent, votre camarade m'attend dans son submersible. J'espère qu'il est aussi vaillant que vous. Elle sort.
La forteresse. Un général d'état-major apparaît au téléphone. Servus aus Hostenbericht über Pschemisel fertig.
Bonjour, dis-moi, tu as terminé l'article sur Pschemisel?
Noch nicht, ein bisschen nicht ausgeschlafen.
Toujours pas? Ah, tu n'as pas assez dormi?
Geh, schau dazu, sonst kommst du wieder zum Mulatieren zu spät. Also hörst du?
Allez, un petit effort ou tu seras en retard pour la bamboche. Écoute, là, vraiment...
Bon, sonst wieder alles vergessen.
Quoi? T'as encore tout oublié?
Setz.
Ah, vous autres.
Hör zu, ich schärf dir noch einmal ein.
Écoute, mets-toi bien ça dans le crâne.
Hauptgesichtspunkte, erstens, die Festung war eh nichts wert. Das ist das Wichtigste.
Les points principaux. Primo, de toute façon, cette forteresse ne valait pas un clou, c'est le plus important.
Oui, man kann nicht.
Comment, on ne peut pas?
Was, man kann nicht vergessen machen, dass die Festung seit jeher der Stolz.
Quoi, on ne peut pas faire oublier que depuis toujours cette forteresse est la fierté?
Oh, das kann man vergessen machen, lieber Freund. Also hör zu, die Festung war eh nichts mehr wert, lauter altes Graffelwerk.
On peut tout faire oublier, mon cher ami. Alors écoute, de toute façon, cette forteresse ne valait plus un clou, rien que de la quincaillerie.
Oui, modernste Geschütze, ich sag da lauter altes Graffelwerk. Verstanden?
Comment? L'artillerie la plus moderne? Je te l'ai dit, rien que de la quincaillerie. Compris?
Dabei das Moment der ungenügenden Verproviantierung nicht zu stark betonen, weißt? Schlamperei, Ballerwatsch, etc. tunlichst verwischen.
À ce propos, un élément à ne pas trop souligner, l'approvisionnement insuffisant. Tu vois, effacer autant que possible, laisser aller, la pagaille, etc.
Diese Momente dringen sich auf, aber das wirst schon treffen.
Certes, ces éléments s'imposent, mais tu trouveras bien.
Hunger ist die Hauptsache. Stolz auf Hunger, verstehst?
L'essentiel, c'est la famine. La fierté de la famine, tu comprends?
Na, nicht durch Hunger, sondern durch Gewalt. Was rede ich? Nicht durch Gewalt, sondern durch Hunger. Na, also, gut ist.
Pas par la famine, par la force. Qu'est-ce que je raconte? Non, pas par la force, mais par la famine. Bon, voilà, c'est ça.
Was? Es geht nicht, wenn man dann merkt, dass kein Proviant.
Quoi, ça ne colle pas? On se rendrait compte que les provisions?
Oui.
Comment?
Und wenn man dann einwendet, warum nicht genügend Proviant?
Et on objectera qu'il n'y avait pas assez de provisions.
Also dann gut, gehst drauf ein und sagst unmöglich so viel Proviant, als notwendig aufzuhelfen, weil es jeder Feind kriegt, wenn er die Festung nimmt.
Eh bien, tu argumentes, tu dis impossible d'amasser toutes les provisions nécessaires, parce que de toute façon l'ennemi les aura en s'emparant de la forteresse.
Wie er sie dann genommen hätte, dann durch Hunger.
Comment? Ils s'en seraient emparés par la famine?
Nein, dann selbstverständlich durch Gewalt, dann frag nicht so viel.
Non, par la force, bien sûr, ne pose pas tant de questions.
Na, verstehst du nicht, wenn er also die Festung durch Gewalt nimmt und wir haben einen Proviant, dann nachher nimmt er auch einen Proviant.
Tu ne comprends donc pas que s'il s'empare de la forteresse par la force et que nous avons des provisions, il s'emparera aussi des provisions.
Na, darum dürfen wir keinen Proviant haben, weil nachher nimmt er keinen Proviant, sondern er nimmt die Festung durch Hunger, aber nicht durch Gewalt.
Nous ne devons pas avoir de provisions pour qu'il ne s'empare pas des provisions, mais qu'il s'empare de la forteresse par la famine et non par la force.
Non, wirst schon machen, Servus. Ich muss in die Messe, hab nicht die Absicht, mich durch Hunger zu übergeben. Schluss.
Bon, tu t'en sortiras bien. Adieu. Il faut que j'aille aux messes. À force, je crie famine. Terminé.
Le restaurant d'Anton Courbet. Au premier plan, un monsieur avec une dame, un homme passe d'une table à une autre, s'inclinant sans cesse en silence. Un serveur. Vous avez commandé, monsieur ?
Le monsieur, non, la carte. Le garçon sort.
Deuxième serveur. Vous avez commandé, monsieur ?
Le monsieur, non, la carte. Le garçon sort.
Un jeune serveur. Vous désirez boire, bière, vin ?
Non, le jeune homme sort.
Troisième serveur. Vous avez commandé, monsieur ?
Non, la carte. Un garçon qui passe en hâte. La carte.
Deuxième jeune serveur. De la bière, du vin ?
Non.
Quatrième serveur. Apporte la carte. Vous avez commandé ?
Non, vous venez d'apporter la carte. Qu'est-ce qu'il y a de rapide ?
Le serveur. Tout ce qui est marqué sur la carte.
Mais sur la carte, il est marqué « Dieu punisse l'Angleterre ». Je ne mange pas de ça.
Peut-être une préparation minute, je pourrais recommander à monsieur.
Vous avez du roast beef?
Je regrette, c'est un jour sans viande. Madame aimerait une belle escalope ou des travers, ou peut-être une oie rôtie, madame.
Un hors d'œuvre pour commencer. C'est quoi des œufs dressés garnis de leur jaune?
Des œufs à la russe, ça ouvre l'appétit.
Moi, ça me le coupe. Alors, peut-être, c'est quoi la saule sauce farine ?
Une saule à la normande.
C'est quoi des crottins verts à la poêle ?
Des choux de Bruxelles.
C'est quoi le plat mixte ?
Un veau maringo.
Bah, sûrement pas, Seigneur. Apportez, attendez, c'est quoi ça, une tranche de veau baignant dans son jus façon chef de guerre ?
Une escalope bordelaise.
52 couronnes, un peu cher, un peu cher.
Monsieur ne va pas l'oublier, c'est la guerre, et c'est un jour sans viande.
Eh bien, allez-y, apportez-nous ça. Le garçon sort.
Un serveur, vous avez commandé, monsieur ?
Oui.
Deuxième serveur, vous avez commandé, monsieur ?
Oui.
Un jeune serveur, de la bière, du vin ?
Non.
Troisième serveur, vous avez commandé, monsieur ?
Oui.
Quatrième serveur, revenant, je regrette, plus moyen de vous servir. Il raye presque tous les plats.
Mais vous avez pourtant...
Eh oui, un jour sans viande, ça n'a rien d'étonnant. Monsieur aimerait peut-être des pommes en rampe des champs ou au persil, il y a encore sur la carte.
Au persil ?
Les serveurs à voix basse, pommes anglaises qu'on les appelait avant la guerre.
Ah, et on croit que c'est comme ça qu'on va la gagner. Non, attendez voir, des pâtes Felloni, qu'est-ce que ça signifie?
Mais ben des macaronis.
Ah oui, bien sûr. Et la salade de bandit, qu'est-ce que c'est que ça?
De la romaine.
Ah ouais, c'est évident. Bon, apportez-nous des tripes à la paysanne avec des pommes persil, une salade de bandit et comme dessert, deux tartes courbettes. Elle s'appelait comment la tarte avant?
Le cake courbette.
Mais pourquoi courbette?
C'est le nom de monsieur. Monsieur Courbette vient à table, fait une courbette et sort.
Qui est-ce monsieur?
Le serveur. Mais ben le patron, il sort, le maître d'hôtel. Vous avez commandé monsieur?
Oui.
Un nain créeur de journaux passe en se dandinant entre les tables. Victoire sur victoire, édition spéciale, écrasante défaite des Italiens, victoire sur victoire.
Deux jeunes filles passent entre les tables avec des cartes postales et des insignes de l'aide aux victimes de guerre. Pour les victimes de guerre, une obole s'il vous plaît. Acte 3, Vienne, 1916. Sur le ring devant chez Cirque, larves et lémures, des groupes se forment. Un crieur de journaux. Édition spéciale, Venise bombardée, lourde défaite des Italiens.
Un fournisseur de l'armée. Si vous aviez lu l'Abendblatt, vous n'auriez aucun doute. Un second fournisseur de l'armée. C'était donné comme information authentique.
Un deuxième crieur de journaux. Édition spéciale, 100 000 morts italiens.
Le premier fournisseur de l'armée. Puisque je vous le dis en toutes lettres, le célèbre acteur Kramer est en tournée à Marienbad à partir du premier.
Le troisième crieur de journaux. Prise de Kragujevac.
Le second fournisseur de l'armée. Dieu merci, comme ça ma femme va rester plus longtemps à Marienbad. Le premier... Votre divine épouse?
Un quatrième crieur de journaux. Tagblatt, deuxième édition, le commentaire allemand.
Un officier à trois autres. Salut Novotny, salut Pokorny, salut Povolny, dis donc, toi t'y connais en politique, que dis-tu de la Roumanie? Deuxième officier avec une canne. Tu sais, moi je dis un acte de félonie, comme l'Italie. Le troisième, tu sais, c'est évident. Le quatrième, tout à fait mon avis. Hier j'ai bambouché, vous avez vu le dessin de Schoenflug du grand art.
Une jeune fille. 8 000 emprunts russes pour 10 sous. Une fille se déhanchant parlant en l'air. Grande victoire italienne. Une femme cramoisie au pas de course. Venise bombardée.
Le troisième officier. Qu'est-ce qu'elle crie? Le Venise. Le deuxième. Oh, j'ai eu un choc. Toi aussi, t'as eu un choc. T'inquiète pas, c'est pas le nôtre, c'est l'autre. Le troisième. Ah bon. Le quatrième. Tu ne pensais tout de même pas que nos hommes allaient bombarder notre café? Le deuxième, non, je pensais à des avions italiens, pourquoi pas? Le premier, Froussard va. Allez, allons chez Hopfner. L'abonné et le patriote en conversation. L'abonné, que dites-vous de ces rumeurs? À Vienne, on répand la rumeur qu'il y a des rumeurs en Autriche. Elles se répandent même de bouche en bouche, mais personne ne peut vous dire.
On ne sait rien de précis, hein. Ce ne sont que des rumeurs. Il doit pourtant y avoir du vrai, même si le gouvernement fait savoir qu'il y a des rumeurs.
Le gouvernement met explicitement en garde ceux qui croient ces rumeurs ou les répandent et exhorte tout un chacun à contribuer de la manière la plus diligente et la plus énergique à la répression de ces rumeurs. Eh bien, je fais ce que je peux. Partout où je vais, je dis « qui attache de l'importance aux rumeurs ?»
Eh bien, le gouvernement hongrois dit, lui aussi, qu'à Budapest, on répand la rumeur qu'il y a bien des rumeurs en Hongrie. Et il met en garde, lui aussi.
En un mot, les rumeurs sont répandues dans toute la monarchie. Ça en a tout l'air.
Ah, je crois bien. Vous savez, si on ne l'avait appris que par une vague rumeur... Mais le gouvernement autrichien le dit explicitement. Et les Hongrois aussi, hein.
Il doit y avoir du vrai, mais qui attache de l'importance aux rumeurs?
Bah, ça va de soi. Quand je rencontre quelqu'un de ma connaissance, avant toute autre chose, je lui pose la question « Avez-vous entendu parler de ces rumeurs ?» Et s'il dit que non, je lui dis qu'il ne faut pas les croire, mais en cas de nécessité, les combattre immédiatement de la manière la plus diligente et la plus énergique. C'est bien le moins qu'on puisse exiger.
Il doit y avoir du vrai, sinon les trois députés, vous savez, ceux qui sortent toujours ensemble, ne seraient pas intervenus auprès du Premier ministre pour attirer son attention sur les rumeurs en circulation.
Eh bien, vous voyez, mais le Premier ministre a répondu que les rumeurs en question actuellement en circulation étaient parfaitement connues de lui.
Eh bien, vous voyez, vous savez ce que je crois.
Non.
Je vous le dis en toute confiance. Ces rumeurs concernent la maison. Il s'interrompt net, mettant le journal devant sa bouche.
Que me dites-vous là? Mais j'en sais même plus. Ceux qui répandent ces rumeurs veulent saper la foi que la population a en elle.
Qu'est-ce que vous dites? Il paraît même que ces rumeurs s'entendent simultanément dans des lieux différents. Et que donc?
On a raison de supposer que l'on a affaire à une organisation de rumeurs.
C'est ce qu'on dit. Mais finalement, ce ne sont que des rumeurs. Qui peut affirmer si clairement? Allons donc, simultanément, à des endroits différents.
Ne dites pas ça. Vous savez ce qu'on dit? On dit que ces rumeurs sont une nouvelle manifestation des tentatives en provenance des rangs de nos ennemis pour semer le trouble chez nous. Mais ce sont des efforts bien vains.
Je l'ai entendu aussi. On dit même que ces rumeurs font partie de l'arsenal de nos adversaires qui ne recule devant aucun moyen pour ébranler l'édifice de la monarchie, pour desserrer les liens d'amour et de vénération qui nous attachent à la maison. Il s'interrompt net, mettant le journal devant sa bouche.
Que dites-vous là? Eh bien, ils vont tomber sur un os.
Vous savez quoi?
Eh bien,
j'aimerais savoir ce qu'il y a de vrai dans ces rumeurs.
Moi, je peux vous le dire, moi. Il n'y a rien de vrai. La meilleure preuve en est qu'on ne sait même pas ce que c'est comme rumeur. Vous savez quoi?
Eh bien,
j'aimerais savoir ce que c'est comme rumeur.
Eh bien, que voulez-vous que ce soit ces rumeurs? De belles rumeurs. Elles se répandent de bouche en bouche, mais personne ne peut vous dire.
On en est réduit à se fier à des rumeurs. Alice Chalec, la journaliste. L'homme sans nom. La journaliste. N'est-ce pas là un simple soldat? Un homme sans nom? Il pourra me faire quelques modestes confidences, contribuant ainsi à la psychologie de la guerre. Sa tâche consiste à tirer la ficelle du percuteur. En apparence, une prestation toute simple. Hein, et pourtant, des conséquences incommensurables, aussi bien pour l'ennemi outrecuidant que pour la patrie, se rattachent à cet instant précis. Elle s'adresse à l'un des artilleurs. Alors, dites-moi, que ressentez-vous quand vous tirez la ficelle? Bon. Quels sont les enseignements que vous en tirez? Tenez, vous qui êtes un simple soldat, un homme sans nom, vous devez certainement... Enfin, je veux dire... Que pensez-vous en pleine action quand vous faites partir le coup de mortier? Vous devez certainement penser à quelque chose. Eh bien, à quoi pensez-vous en pleine action?
L'artilleur, après un temps pendant lequel il a examiné Chalec de la tête aux pieds, a rien du tout.
Chalec, déçu, se retourne. Et ça se dit simple soldat. Eh bien, ce soldat, c'est simple. Je ne le nommerai pas. Elle continue à parcourir le front.
Van Schaffer. Deux panneaux. Chaque femme au travail libère un soldat pour le front et interdit aux invalides.
Madame Van Schaffer, je n'ai que deux enfants qui, hélas, ne sont pas encore bons pour le service. D'autant plus qu'à notre très grand regret, l'un des deux est une fille. Il me faut donc avoir recours à un subterfuge, imaginant que mon garçon a déjà été tué au front et que, bien entendu, il a trouvé la mort en héros. Car s'il en avait été autrement, par exemple s'il m'était revenu indemne, je serais morte de honte. Mes enfants présentent, en outre, l'inconvénient de ne pas être venus au monde après le début de la guerre. Sinon, mon garçon, je l'aurais appelé Varsovie, et ma fille Vilna, ou alors lui, Hindebourg, et elle Zeppelin. Qu'un garçon s'appelle Guillaume, ça allait de soi, bien avant la guerre. Je ne vois pas là un hommage particulier à la patrie. Ah, les voici qui arrivent en courant, ces petits schnappants. Mais que se passe-t-il? Vous ne jouez plus à la guerre mondiale?
Petit Guillaume pleurant. Maman, Marie, elle veut pas être morte. J'ai bombardé avec succès sa position et maintenant elle veut pas être morte.
Petite Marie pleurant. Non, c'est pas vrai. C'est un mensonge de l'ennemi. L'agence Reuters tout craché. J'ai repoussé l'attaque sans peine et maintenant il dit...
Marie, elle ment. Sa contre-attaque a été brisée par notre feu.
Nous avons rapporté des prisonniers.
Nous avons atteint nos cibles.
Ben quoi encore, crâneur?
Attends, je me battrai jusqu'à tous les saignés à blanc.
T'es qu'un homme de couleur, un anglais, un français. Elle le frappe.
Ce sont les succès habituels au début de chaque offensive. Il la frappe.
Les conséquences militaires sont minimes.
Et qui est-ce qui a commencé?
C'est pas moi non plus. Madame Van Schaff qui écoutait les yeux brillants. Mon petit Guillaume ne ferait pas de mal à une mouche. Il protège son bien autant qu'il peut. Il mène une sainte guerre défensive.
Laurent, je n'ai pas voulu cela.
Petite Marie, et qui alors?
Allons-y gaiement, il la frappe.
Petite Marie le frappe. Viens te prendre dans mon étau. Madame Van Schaff fait, arrête ma poupée.
Attends un peu, je prends mon lance-flamme.
Madame Van Schaff fait, mon petit Guillaume, reste humain. N'oublie pas ta bonne éducation. Elle s'approche de Marie avec un mouchoir. Allez les enfants, regagnez vos positions. Mais d'abord je vais t'essuyer le visage. Petite Marie pleurant.
Sur ma sucrerie, il lance son aviation. Et de gaz moutarde, ce voyou fait usage.
Elle se lève et met en fuite le petit Guillaume.
Cette retraite est purement stratégique en courant. Hurrah ! Je prends position sur la ligne Siegfried.
Deux invalides passent en clopinant, se dirigeant vers l'allée. Madame Van Schaff fait « Encore ? Mais ça commence à bien faire. S'ils ne respectent pas le panneau, je porte plainte devant les autorités locales. » Les deux invalides s'immobilisent devant le panneau et s'en retournent.
L'un. Où aller ? L'autre. Retournons au front. Là, on a le droit d'y aller. Ils sortent en clopinant. Kaiserjäger tot.
Un commandant. Votre Excellence, cette entreprise était vouée à l'échec à cause d'une carence de l'artillerie. L'ennemi a carrément fait un carton sur les pontons qu'on avait mis à l'eau et sur leurs équipages. Des centaines de cadavres ont disparu ce jour-là dans les flots du San. Et pour finir, nous avons dû renoncer à franchir le fleuve. Nous voilà à présent dans la même situation.
Kaiserjäger tot. Il nous faut tenir coûte que coûte.
Votre Excellence, les troupes meurent de froid dans des trous glaciales, envahies par la nappe phréatique.
À combien estimez-vous les pertes prévisibles?
À 4000.
Les troupes seront sacrifiées conformément aux ordres.
Quand ils sortiront de leur trou, ils pataugeront jusqu'aux genoux dans la neige et vous voudriez qu'ils attaquent une position ennemie sur les hauteurs?
Vous n'avez donc pas d'aumônier pour agaillardir vos hommes? Il ne faut à aucun prix retarder l'offensive.
Votre Excellence, il y a tellement de neige qu'un régiment entier se ferait anéantir.
Un régiment? Qu'ai-je à faire d'un régiment?
Les hommes sont dans l'eau, le ventre vide. Ils opposent une résistance désespérée aux assauts puissants et ininterrompus des Russes. On appelle Kaiserjäger tot au téléphone.
Quoi? La relève ou bien du renfort? Colonel, il vous faut tenir jusqu'au dernier homme. Je n'ai pas de troupes disponibles et la retraite, c'est pas mon genre, quel qu'en soit le prix. Quoi? Vous voudriez un jour de répit pour faire sécher les vêtements? Que dites-vous? Vos braves Tyroliens se font tuer? Leurs cadavres jonchent la rive et le fleuve? Hurlant. C'est pour se faire tuer qu'ils sont là! Terminé! Bon, et vous? J'ai rien d'autre à vous dire. Les troupes tiendront leur position. Il y va de mon existence. Il sort. Liste des morts. Le capitaine.
Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez de plus? Dans ce genre de cas, il est impossible de tenir les listes à jour. Nous ne pouvons tout de même pas savoir si l'homme est mort ou bien blessé et en captivité. Faudrait aller au ministère de la guerre italien, cher monsieur.
Bon, ben, que voulez-vous? On ne peut pas tout faire. C'est incroyable tout ce que les gens nous demandent.
Oui, mais...
Mon cher monsieur, je ne peux pas vous en dire davantage. En outre, il est bientôt 3 heures. Il faut tout de même comprendre ça. Les heures du bureau sont terminées. C'est vraiment extraordinaire. Bon ben, quoi encore? Bon ben, à titre privé, je peux vous dire ceci. Ça fait 6 semaines que vous n'avez plus de nouvelles de votre fils. Eh bien, ne vous en faites pas. C'est sans doute qu'il est mort.
Oui, mais...
Il n'y a pas de mais. Où irions-nous dans ce genre de cas? Vous pensez bien que ça arrive des milliers et des milliers de fois. On est en temps de guerre, mon cher monsieur. Il faut bien que les citoyens y mettent aussi un peu du sien. Regardez-nous ici dans nos bureaux. Nous tenons la place. En outre, cher monsieur, je ne doute pas que vous le sachiez. Je vous le dis de nouveau à titre privé et purement indicatif. Pour un soldat, il n'y a pas de plus grande ambition et de plus belle récompense que de mourir pour la patrie. Alors j'ai bien l'honneur. Bien l'honneur.
Acte 4. La foule. Vienne. Sur le ring, devant chez Cirque, larves et lémures. Tout le monde apparaît, bras dessus, bras dessous, par groupe de 5. Une gaieté sans fondement alterne avec un silence pesant. Ils sont là, enchevêtrés, deux par deux, tels des boucs, front contre front, les yeux dans les yeux, comme liés par un secret. Quand la foule est en mouvement, elle traverse une haie de civils, d'estropiés, d'invalides, dont la tête et les membres sont en proie à des tressaillements incessants, de débris et de zombies de toutes sortes, de mendiants et de mendiantes de tous âges, d'aveugles et de voyants qui, le regard éteint, contemplent ce vide bizarre. Ça et là, des silhouettes courbées sur le trottoir, à la recherche de mégots. Un crieur de journaux. « Édition spéciale, défaite écrasante des Italiens !» Deuxième crieur de journaux. « Édition spéciale, la note américaine de Wilson !» Un officier à trois autres. « Salut Novotny, salut Pokorny, salut Povolny. Dis donc, toi qui t'y connais en politique, que dis-tu de l'Amérique ?» Le deuxième avec une canne. « Plouf !» Troisième. « Ah, tu sais, c'est évident. » Le quatrième. « Tout à fait mon avis. » Hier, j'ai bambouché. Vous avez vu le dessin de Schoenflug ? Grand art. Le premier, tu sais, à mon sens, ce n'est rien d'autre qu'une opération publicitaire des Américains ou quelque chose de ce genre. Le quatrième, bah, ils veulent faire des affaires, c'est tout, c'est dans le journal pour leur business. Le troisième, tu sais, s'ils s'arment, c'est contre la Chine. Le deuxième, mais non, contre le Japon. Le troisième, ah oui, contre le Japon, bien sûr, c'est la même chose, tu sais, je les confonds toujours. Le deuxième, moi je dis plouf. Tout d'abord, ils ne peuvent pas, à cause des sous-marins. Le quatrième, bien sûr, surtout maintenant que c'est à outrance. Le deuxième, et puis tu sais, même s'ils traversent leur division, un seul de nos régiments en vient à bout, hein, haut la main. Mais alors, haut la main, mon ami, quick, hein, liquidé. Le troisième, vivement que ce soit la paix. Le deuxième, permet. Le troisième, qu'on puisse enfin retourner au Gartenbau. Le deuxième, ah bon. C'est autre chose. Le premier, dis donc, toi qui t'y connais en politique, j'arrête pas de lire qu'ils vont faire un blocus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le deuxième, bah, tu sais, ben voilà, nous et les Allemands, nous formons un bloc qu'ils ne vaincront jamais. Alors, ils nous coupent les vivres, et ainsi de suite. Le premier, ah, voilà, c'est ça. Dis, c'est vrai que la trahison de la Bohème, c'est la faute aux socialos ? Dis, j'ai l'impression, mais je la connais cette souris, la regarde. Dis, mais qu'est-ce que c'est en fait les conditions suspensives ? Garde à vous, c'est celle d'hier, une souris de choix. Attendez, je vais, il sort, les autres lançant dans sa direction. Bon, alors tu viens chez Hopfner après, hein ?
La clinique, professeur Henkel. Il n'y a plus rien à opérer ? Son Altesse sera là d'un instant à l'autre, je lui ai promis... Je voulais lui offrir l'occasion d'assister une fois à une opération en tant que spectateur. Alors ?
Professeur Busset, on n'a rien.
Mais il faut absolument opérer.
Busset, on n'a rien.
Vous avez encore une malade. Faites-la amener.
Mais elle vient de prendre son petit déjeuner.
Aucune importance. On amène la patiente à l'assistant. Préparez-la et videz-lui l'estomac.
La patiente, en grande agitation, se débat. Non, je ne veux pas.
Pas de simagrée. Elle va finir par nous faire honte devant son Altesse. Apparaît le prince de la Lippe avec sa suite. Cérémonial d'accueil, on procède à l'opération. Ça marche très bien, Altesse. Là, ça y est.
Busset. Ah, mon Dieu.
Qu'est-ce qu'il y a ? L'assistant administre une injection de camphre.
Professeur.
Avec Laurent Baron. Chut. Ah, voilà son Altesse.
Le prince de la Lippe à Henkel. Excellent. Comme vous avez opéré ça, je vais en parler immédiatement à ma sœur.
Les enseignements de la guerre, le gouvernement. J'ai une idée.
à son secrétaire. Parmi les enseignements les plus importants que nous devons tirer de cette guerre mondiale meurtrière et les sacrifices qu'elle exige de la part de la population tout entière, le moindre n'est certainement pas l'importance de l'éducation dans l'esprit patriotique qu'il faut transmettre à notre jeunesse des écoles, de la connaissance et de l'amour de la patrie dans ses limites les plus étroites et les plus larges qu'il faut lui inculquer et de tous ces germes qu'il faut planter dans l'âme enfantine et dont naîtront ces magnifiques qualités viriles qui rendront le jeune homme apte à satisfaire en tant que patriote enflammé, animé par l'amour et par le sens du devoir et de la fidélité envers la maison impériale.
Procureur lieutenant.
Qu'ils aillent se faire pendre, au greffier. Vous avez mis au propre les trois condamnations à mort, les trois gars de Karlova qui avaient des fusils.
Le greffier. Oui, mon lieutenant, mais avec hésitation. Je voudrais faire remarquer un point. J'ai fait une découverte, à savoir qu'ils n'ont que 18 ans.
Et alors, où voulez-vous en venir ?
Ils ne peuvent pas, enfin, selon le code militaire, être passés par les armes. Il faut commuer la condamnation en travaux forcés.
Donnez. Il lit. Nous n'allons pas modifier la condamnation, mais leur âge. De toute façon, ils sont costauds, les gars. Il trempe sa plume. Au lieu de 18 ans, on va mettre 21 ans. Il écrit. Voilà, on va pouvoir les pendre tranquilles.
La lettre. Une femme écrivant à une table. Mon époux adoré, je t'apprends dès que j'ai fauté. J'y suis pour rien, cher époux. Tu me pardonnes un N. Tout ce que je t'apprends, D. Je suis tombée et enceinte à cause d'un autre. Je sais que tu es bon et que tu me pardonnes tout. Il m'a embobinée, ER. Il disait que n'importe comment tu reviendras à pas du front. Et en plus, j'avais mon moment de faiblesse, E. Tu connais AI, la faiblesse des femmes. Et tu ne peux rien mieux faire que de pardonner. De toute façon, la chose est arrivée. Je me disais, Aï, aussi qu'à toi aussi, il a dû t'arriver quelque chose. Parce que ça faisait, trois mois aussi que tu n'avais plus rien écrit, S. Je me suis tout effrayée et quand j'ai reçu ta lettre et que tu es encore vivant, je t'en félicite, mais pardonne-moi, mon France. Peut-être l'enfant va mourir de zère. Et après, tout est pour le mieux. Je n'aime plus ce gars parce que je sais que tu es encore vivant. Chez nous, tout est ES très cher. C'est bien que tu es parti au front. Au moins, le manger est ne te coûte rien. Les sous que tu m'as envoyés, ER, j'en ai grand besoin. Je t'embrasse encore une fois, ta femme inoubliée, Anna.
Acte 5, la foule. 1918, le soir devant chez Cirque, froid humide, la pluie vient d'en bas. Regard fixe et muet du troupeau de boucs et des blessés et des tués. La voix d'un crieur de journaux. Ab intellizione de 8 heures. Un officier à trois autres. Salut Novotny, salut Pokorny, salut Povolny, dis donc. Toi qui t'y connais en politique, que dis-tu de la Bulgarie? Le deuxième avec une canne. Tu sais, moi je dis, on n'est pas sans l'ignorer. Le troisième, tu sais, c'est évident. Le quatrième, tout à fait mon avis. Hier j'ai bambouché, vous avez vu le dessin de Schoenflug? Du grand art. Le troisième, qu'est-ce qu'on se barbe? Le premier, tu sais, aujourd'hui, au ministère de la guerre, Schlepitschka von Schlachtentreu a dit que nous approchons à pas de géant de paix, ou plutôt à pas de géant de la paix. C'est vrai, c'est plutôt optimiste. Le deuxième, c'est pessimiste. Le troisième, pessimiste. Tu sais, il a dit qu'en Turquie, il y a un malade, et après, c'est notre tour. Je comprends pas. Le deuxième, il veut parler de la situation et de tout ça. Le troisième, ah bon. Le quatrième, pas la moindre souris aujourd'hui. Le premier, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
Bon, bah, allons chez Hopfner.
L'abonné et le patriote.
Oh, alors.
Ich bin überzeugt, dass durch den Ausbau des Bündnisses...
Bah, je ne doute pas qu'alors l'affaiblissement de la haine...
Vermutlich würde durch die Vertiefung des Bündnisses...
Je crois que grâce à la montée des prix...
Ohne Zweifel könnte der Abbau der Preise...
Oh, il me semble pour cela qu'une montée de la haine...
Ich glaube aber, dass der Ausbau der Preise...
Bah, je pense qu'ainsi la baisse de la haine...
Vermutlich würde durch eine Erhöhung des Bündnisses...
Il me semble qu'ainsi l'affermissement de la haine...
Andererseits bin ich überzeugt, dass ich durch einen Ausabbau des Bündnisses...
On pourrait provoquer sans difficulté une baisse des prix. Épilogue. L'heure à l'heure. Karl Kraus. Je conserve des documents pour une époque qui ne les comprendra plus, ou vivra si loin d'aujourd'hui qu'elle dira que j'étais un faussaire. Non, les temps ne viendront pas qui diront cela, car ils ne seront pas. J'ai écrit une tragédie dont le héros qui succombe est l'humanité, et dont le conflit tragique, celui du monde avec la nature, se conclut par la mort. Hélas, ce drame n'ayant pas d'autre héros que l'humanité, il n'y a personne pour l'entendre. C'est nous qui avons inventé cette chose, et ce qui nous menace dans notre dos n'est pas la mitrailleuse, mais le banal miracle qu'elle existe. Si on lui avait susurré que dès la première année de la guerre, une raffinerie de pétrole ferait 137% de bénéfices nets sur la totalité du capital en action, le Kreditanstalt 19,9 millions de bénéfices nets et que les trafiquants seraient dédommagés au centuple de la dépréciation du sang d'autrui, le diable lui-même se serait prononcé en faveur d'une paix par renonciation. Des hommes d'État, appelés en pleine déchéance, uniquement pour effréner les pulsions bestiales de l'humanité, les ont débridés. La haine de la vie, dans toute sa lâcheté, s'est dotée de la machine pour dévaster tout progrès. Sous le manteau de la technique, l'hystérie prend d'assaut la nature, le papier journal commande aux armes. Nous fûmes invalidés par l'action des rotatives avant que les canons fassent des victimes. Ce n'est pas votre mort, c'est votre vie que je veux venger sur ceux qui vous l'ont infligée. J'ai dessiné les ombres qu'ils sont. Je les ai dépecés de leur chair. Mais les pensées nées de leur bêtise, les sentiments nés de leur malignité, l'effroyable rythme de leur inexistence, je les ai affublés de corps et je les laisse se mouvoir. Car le temps rend la substance méconnaissable et pourrait accorder l'amnistie au plus grand crime jamais commis sous le soleil, sous les étoiles. C'est pourquoi j'ai sauvegardé la substance et ma voix, chaque fois qu'elle citait, a retenu la note fondamentale jusqu'à la fin des jours. Et quand les jours n'entendraient plus, il y aurait au-delà une oreille pour l'entendre. Voilà la guerre mondiale. Voilà mon manifeste. J'ai tout mûrement réfléchi. J'ai pris sur moi cette tragédie qui se décompose en autant de tableaux de l'humanité en décomposition, afin que l'entende l'esprit qui prend pitié des victimes. Qu'ils reçoivent la note fondamentale de ces temps, l'écho de ma démence sanglante qui me rend moi aussi coupable de ces bruits, qu'ils l'admettent comme une rédemption.
Der Nagler. Ich bewahre Dokumente für eine Zeit, die sie nicht mehr fassen wird, oder so weit vom Heute lebt, dass sie sagen wird, ich sei ein Fälscher gewesen. Doch nein, die Zeit wird nicht kommen, das zu sagen. Denn sie wird nicht sein. Ich habe eine Tragödie geschrieben, deren untergehender Held die Menschheit ist, deren tragischer Konflikt als der der Welt mit der Natur tödlich endet. Ach, weil dieses Drama keinen anderen Helden hat als die Menschheit, so hat es auch keinen Hörer. Wir haben das Ding erfunden und was uns im Rücken bedroht, ist nicht das Maschinengewehr, sondern das öde Wunder, dass es dieses gibt. Und wenn man ihm nun zugeraunt hätte, im ersten Jahre des Kriegs, in den er die Völker mit der Fibel in der Hand gejagt hat, damit sie sein Geschäft mit mehr Seele betreiben, im ersten Jahr schon werde eine Petroleumraffinerie 137% Reingewinn vom gesamten Aktienkapital erzielen und der David Fanto 73%, die Kreditanstalt 19,9 Millionen Reingewinn und die Wucherer an Fleisch und Zucker und Spiritus und Obst und Kartoffeln und Butter und Leder und Gummi und Kohle und Eisen und Wolle und Seife und Öl und Tinte und Waffen würden hundertfach entschädigt sein für die Entwertung fremden Bluts. Der Teufel hätte einem Verzichtfrieden das Wort geredet. Und Staatsmänner, in abschüssiger Zeit einzig berufen, den bestialischen Drang der Menschheit zu hemmen, sie haben ihn entfesselt. Im Frieden zu Tiermord und Kindermord bereit, griff feiger Lebenshass zur Maschine, um alles Wachstum zu verheeren. Hysterie im Schutze der Technik überwältigt die Natur. Papier befehligt die Waffe. Invalide waren wir durch die Rotationsmaschinen, ehe es Opfer durch Kanonen gab. Nicht euren Tod. Euer Erlebnis will ich rächen an jenen, die es euch aufgebunden haben. Ich habe sie zu Schatten geformt, die sie sind, und die sie in Schein umlügen wollten. Ich habe ihnen das Fleisch abgezogen, aber den Gedanken ihrer Dummheit, den Gefühlen ihrer Bosheit, dem furchtbaren Rhythmus ihrer Nichtigkeit gab ich die Körper und lasse sie sich bewegen. So macht die Zeit das Wesen unkenntlich und würde dem größten Verbrechen, das je unter der Sonne unter den Sternen begangen war, Amnestie gewähren. Und hörten die Zeiten nicht mehr, so hörte doch ein Wesen über ihnen. Ich habe nichts getan, als diese tödliche Quantität verkürzt, die sich in ihrer Unermesslichkeit auf den Unbestand von Zeit und Zeitung beriefe. All ihr Blut war doch nur Tinte. Nun wird mit Blut geschrieben sein. Dieses ist der Weltkrieg. Dies ist mein Manifest. Ich habe alles reiflich erwogen. Ich habe die Tragödie, die in die Szenen der zerfallenden Menschheit zerfällt, auf mich genommen, damit sie der Geist höre, der sich der Opfer erbarmt, und hätte er selbst für alle Zukunft der Verbindung mit einem Menschenohr entsagt. Er empfange den Grundton dieser Zeit, das Echo meines blutigen Wahnsinns, durch den ich mitschuldig bin an diesen Geräuschen. Er lasse es als Erlösung gelten.
Juste vous dire un mot, restez. Martin Ploderer, donc un acteur qui est venu spécialement de Vienne pour faire cette lecture. Et pour faire cette lecture avec Dominique Raymond, je voulais le préciser parce que nous n'avons pas eu le temps de le mettre dans le programme, donc il faut que vous sachiez comment il s'appelle. Il s'appelle Martin Ploderer. Il est venu avec des enregistrements qu'il a fait en allemand de l'intégralité de la pièce qui, je ne sais pas si vous le savez, mais fait 800 pages. Donc il faut quand même préciser aussi que cette pièce a été traduite par Heinz Schwarzinger et Jean-Louis Besson et préciser que l'adaptation pour ce soir a été faite par Jean-Louis Besson et David Lescot. Voilà.